Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
On retrouve Marine Digabel.
Bonjour. L'Écosse, voilà une région qui évoque quantité d'images. Des châteaux hantés au whisky, en passant par le kilt, la cornemuse, le monstre du Loch Ness, l'animation du Festival d'Édimbourg ou encore les grandioses paysages des Highlands. Après une telle énumération, rien d'étonnant à ce que l'Écosse soit sympathique aux Français. La réciproque est vraie, bien sûr, et on raconte que les Écossais soutiendront plus volontiers la France que l'Angleterre quand les deux équipes s'affrontent au tournoi des Six Nations. Mais qui sait que cette sympathie mutuelle est le fruit d'une riche histoire commune ? Qui sait en effet que l'Écosse et la France ont été de fidèles alliés pendant plusieurs siècles ? Pour découvrir l'histoire de cette vieille alliance, nous accueillons le professeur Laidlaw, professeur émérite de l'Université d'Aberdeen et professeur honoraire de l'Université d'Édimbourg. Professeur Laidlaw, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour. Alors, c'est pour moi un grand plaisir.
Alors, j'aimerais commencer par une question d'introduction. Comment vous êtes-vous intéressé aux relations franco-écossaises ?
Alors, c'est une longue histoire. Mais pour raccourcir un petit peu, c'est au moment où j'ai choisi mon sujet de thèse. Alors, je suis médiéviste et j'ai choisi comme sujet de thèse le poète Alain Chartier, normand, qui est né en 1385 à peu près et qui est mort en Avignon en 1430. Mais ce qui m'a beaucoup intrigué, à part la qualité de ses ouvrages littéraires, c'était le fait qu'il était ambassadeur du roi Charles VII de France et qu'il s'était rendu une fois en Écosse pour négocier un traité militaire et négocier le mariage de la princesse Marguerite d'Écosse avec le futur Louis XI.
Cette alliance, quand est-elle née exactement et en quoi consistait-elle ?
Bon, alors le premier document dont nous disposons, c'est le traité de Paris et le traité de Dunfermline qui date de 1295, et ancien style. Je précise parce que le traité a été signé à Paris au mois d'octobre et ça a été ratifié à Dunfermline au mois de février, le mois suivant. Donc, et à ce moment-là, ancien style, l'année se terminait à Pâques.
Et quel était le contenu de ce traité ?
Alors, c'est comme ce traité était un traité offensif et défensif, mais contre l'Angleterre. Et ça a été pour nous, en Écosse, l'Angleterre, pendant tout le Moyen-Âge, a été un problème. Et pour vous, en France également, parce qu'à ce moment-là, les rois anglais possédaient d'énormes territoires en France, surtout au sud-ouest de la France. Et pendant la guerre de Cent Ans, qui allait commencer quelques 30-40 ans après le traité de Paris. Et les Écossais ont toujours battu aux côtés des Français. Donc la guerre de Cent Ans, c'est une guerre entre la France et l'Angleterre, qui étaient les principaux, si vous voulez, personnages. Mais il y avait aussi l'Écosse qui intervenait de temps à autre.
On s'est allié contre un ennemi commun, en quelque sorte.
Oui, absolument. Et donc, il y avait des troupes françaises qui sont arrivées en Écosse pour nous aider de temps à autre. Et au fin 14e siècle, 16e siècle également. Mais aussi, il y avait des soldats écossais. Il y avait deux, William Douglas, qui ont battu avec le roi Jean le Bon à la bataille de Poitiers, par exemple, en 1356. Ils sont tous les deux morts sur le champ de bataille.
L'aide des Écossais a-t-elle été décisive pour la France à certaines batailles ? Et à l'inverse, l'aide des Français a-t-elle aidé les Écossais de façon durable ?
Je dirais que l'aide écossaise a été extrêmement importante pour la France entre, disons, 1418 et 1430. C'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de Jeanne d'Arc. Mais il y avait le traité de Troyes, signé en 1419 et par lequel le dauphin Charles était déclaré illégitime et c'était la princesse Catherine de France qui allait hériter du trône français et elle était mariée à Henri V d'Angleterre. Donc à un moment donné, la France risquait de devenir, non pas une province anglaise, mais quelque chose de semblable. Et entre, pendant cette décennie, entre 1418 et 1429, il y avait quelques milliers de soldats écossais qui luttaient pour la France et contre les Anglais. Il y avait ce qu'on appelait une armée d'Escosse. Lorsqu'on évoque l'armée d'Escosse en France, il faut aussi évoquer le nom d'un certain Jean Stuart de Darnley. Darnley est un petit village dans le Renfrewshire, donc à l'ouest d'Écosse, qui était le connétable de l'armée d'Escosse. Et on possède nombreux documents d'archives qui citent son nom. Et c'est aux environs de 1424 que le roi Charles VI lui a donné les seigneuries d'abord de Concresseau et aussi d'Aubigné-sur-Nair, donc dans le Berry. Et deux années plus tard, si je ne me trompe pas, il a eu l'insigne honneur de pouvoir écarteler ses armes avec les armes de France. Donc à partir de ce moment-là, les armes des Stuarts d'Aubigné portent les lits de France, les forts de lits de France.
Outre l'aide militaire, la vieille alliance s'est-elle manifestée dans des échanges commerciaux ou culturels ?
Oui, dans des échanges commerciaux, bien entendu. J'ai assez récemment découvert un petit document d'archives où il était question du charbon d'Écosse qu'on importait en France. Donc il y avait des bateaux, c'est extraordinaire, qui partaient de Leith en Écosse et qui arrivaient au nord de France.
Est-ce qu'il y a également eu des échanges linguistiques entre les deux pays ?
Et c'est plutôt l'échange entre la France et l'Écosse, parce qu'on cite toujours bon nombre de mots et dans la langue qu'on parle tous les jours en Écosse, qui sont d'origine française. Il y a le célèbre haggis à commencer, qui est sûrement l'origine de ce mot, c'est le hachis. Alors c'est un plat délicieux. Et qui fait l'horreur des Anglais, mais nos amis français l'apprécient beaucoup. Il y a aussi quelques autres mots. Il y a pour une armoire, on dit très souvent, ou on disait plutôt, « ombré ». Alors vous entendez là un mot qui ressemble d'assez près au mot français. Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a un gigot, oui, on gigot d'agneau, bien entendu, en France. Et en Écosse, on dit « jigot ». Alors, si on allait dans une boucherie anglaise, et si on demandait un jigot, personne ne vous comprendrait.
Quand et comment l'alliance s'est-elle terminée ? Est-ce qu'elle est vraiment terminée, d'ailleurs ?
Il faudrait dire plutôt que l'alliance s'est terminée ou a commencé à mourir à partir du moment où le roi Jacques VI a accédé sur le trône anglais en 1603. Parce que les rois anglais et la reine Élisabeth d'Angleterre estimaient qu'elle était, dans un sens, toujours reine de France. Donc, si vous lisez les chartes émises par les rois anglais, vous allez trouver que le roi anglais s'est écrit comme roi d'Angleterre, d'Irlande et de France. Alors, Jacques VI ou Jacques Ier de Grande-Bretagne n'a pas voulu aller à l'encontre de cette description. Donc, si vous lisez, par exemple, la traduction de la Bible, dont il était dans un sens responsable et qui est sorti vers 1610, il se décrit là comme roi de Grande-Bretagne plutôt, et ça c'est important, d'Irlande et de France.
Pourquoi l'expression Grande-Bretagne est-elle importante ?
C'est-à-dire que, parce que vous autres Français, vous avez toujours tendance à parler de la reine d'Angleterre, et réellement, il n'y a plus de roi ou de reine d'Angleterre dans le style administratif à partir de 1603. Mais les Anglais, bien entendu, parlent très souvent de « the Queen of England » et vous autres Français, vous parlez de la reine d'Angleterre. Oui. Par contre, elle est la reine de la Grande-Bretagne de l'Irlande du Nord.
On l'a vu, la vieille alliance a eu des résonances militaires. Est-ce qu'elle a aussi eu des implications pour le commun des Écossais et le commun des Français ?
C'est-à-dire que l'alliance militaire a toujours été très importante. Il y avait Louis XIV, par exemple. Il y avait plusieurs régiments écossais. Et pendant au moment des révoltes jacobites, il y avait l'alliance militaire entre l'Écosse, ou les jacobites plutôt, et la France était extrêmement importante. Parce que c'est le roi français qui a fait financer les expéditions jacobites en Écosse.
On peut peut-être rappeler brièvement qui étaient les jacobites.
C'est-à-dire, c'est les partisans du roi, nous disons Jacques 8 et 3, parce qu'on avait expulsé les rois catholiques au XVIIe siècle, mais les rois Stuart, qui étaient catholiques, estimaient qu'ils étaient toujours les rois légitimes du Royaume-Uni.
J'ai lu qu'il avait été question de double nationalité entre la France et l'Écosse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende ?
Non, c'est vrai. Je ne me rappelle plus la date exacte où un roi français a accordé à tout Écossais résident en France la nationalité française, et inversement, c'est le roi écossais qui l'a fait. Donc ça a continué. Et jusqu'à vers 1900, c'est à ce moment-là qu'on a annulé cette possibilité. Donc, et ça, c'est enseveli un acte du Parlement britannique, un acte qui comporte toutes sortes de provisions, mais là-dedans, vous trouverez une allusion à cette double nationalité qui n'existe plus.
La vieille alliance est connue des gens, des Français proches de l'Écosse et des Écossais proches de la France. Est-ce qu'elle est aujourd'hui plus connue dans un pays que dans l'autre ?
Mais il est à peu près certain qu'il est plus connu en Écosse qu'en France. Mais il faut aussi ajouter que les souvenirs sont assez vagues. Mais les automobilistes écossais qui se rendent en France ont toujours tendance à mettre une petite plaquette derrière la voiture qui dit GB, mais en dessous Écosse. Alors comme ça, ils ont l'impression que les Français vont les accueillir d'une façon plus généreuse et hospitalière, et c'est le cas. Mais il faut bien entendu préciser que l'Écosse n'est pas l'Angleterre, parce qu'il y a certains Français qui ont tendance à confondre l'Angleterre et le Royaume-Uni.
Pourquoi est-ce qu'on se souvient mieux de cette alliance en Écosse qu'en France ?
On a des vagues souvenirs de la guerre de Cent Ans, de l'alliance militaire entre l'Écosse et la France. Et bien entendu, on se souvient de l'influence, des difficultés que notre voisin du Sud nous a causées pendant notre longue histoire.
Parmi les recherches que vous avez menées au sujet de la vieille alliance, est-ce que vous avez eu vent d'anecdotes ou de petites histoires qui paraissent aujourd'hui savoureuses ?
Y a une anecdote que l'on raconte assez souvent, et ça concerne mon Alain Chartier. Ça concerne la dauphine Marguerite, qui s'était mariée avec le dauphin Louis, qui est le futur Louis XI. Et on dit que qu'un beau jour, la dauphine a trouvé Alain Chartier allongé sur un banc, il était en train de sommeiller. Alors elle lui a posé un baiser sur la bouche. Alors ces demoiselles d'honneur étaient extrêmement étonnées en disant « Mais pourquoi, madame, est-ce que vous avez fait ça ?» Et elle a dit qu'elle voulait surtout, elle tenait à baiser la bouche, d'où étaient sorties tant de paroles vertueuses. Mais malheureusement, il s'agit d'un mythe, parce que Chartier est mort en 1430 et la petite dauphine n'est arrivée en France qu'en 1435. Donc impossible, mais quand même, c'est une très très belle histoire et qui indique très bien la réputation dont a joui pendant pendant longtemps Alain Chartier.
Aujourd'hui, qu'en est-il ? Est-ce que cette alliance trouve des résonances dans des événements culturels ou dans une vie associative, par exemple ?
Il y a bien entendu les rencontres sportives. Et cette année, ça a été tout à fait exceptionnel. L'équipe écossaise de rugby a battu la France. Et puis, à notre grand étonnement, assez récemment, l'équipe écossaise de football a battu la France à Glasgow. Mais pour nous, ça a été une année vraiment exceptionnelle. Alors, les consuls généraux à Édimbourg ont beaucoup encouragé les contacts entre la France et l'Écosse. Et il y a 5 ou 6 ans, le consul général en poste à ce moment-là a fait inviter les cornemusiers de la police d'Édimbourg à jouer au Parc des Princes, sans doute. Et c'était pas le Stade de France. Et à ce moment-là, et il faut dire exceptionnellement, l'Écosse a battu la France, peut-être à cause de la présence des cornemusiers. Il faut ajouter tout simplement que, est-ce que c'était à cause de cela? Le consul général, on l'a nommé ambassadeur, mais on l'a envoyé au Kyrgyzstan.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette alliance? Vous nous avez parlé d'une petite histoire mythique, mais mythique seulement, puisqu'elle n'a pas pu se produire véritablement. Est-ce que vous auriez des exemples d'histoires bien réelles cette fois-ci?
Attendez, j'allais ajouter un deuxième mythe, si vous me permettez. Parce que si vous lisez les histoires d'Écosse publiées au début du XVIe siècle, vous allez trouver là un mythe vraiment bizarre. Il s'agit d'un roi, donc on ne sait pas sûr qu'il existait un roi écossais qui s'appelait Haché. Alors on dit que l'empereur Charlemagne était très inquiet parce que le commerce maritime, la France souffrait beaucoup des pirates anglais. Et il a envoyé une ambassade en Écosse pour demander l'aide du roi écossais. Et les historiens du XVIe siècle estiment que la vieille alliance, ou comme on disait à l'époque, l'ancienne alliance ou les anciennes alliances, datent de cette époque-là. Mais comme je vous ai dit, il n'est pas du tout certain que le roi Haché ait existé, et il est plus que improbable que l'empereur Charlemagne ait envoyé une ambassade en Écosse à cette fin-là.
Et alors des histoires réelles dont on est sûr?
Il y a les contacts qui continuent entre Aubigny-sur-Nère et l'Écosse. Et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Aubigny-sur-Nère doivent visiter cette belle ville, Berrichonne, parce que c'est la ville la plus écossaise de France. Et c'est une ville qui a son tartan, qui a ses cornemusiers, et qui chaque année fête des semaines franco-écossaises. Et là, vous trouverez un police box, donc une cabine téléphonique style britannique, et le château d'Estuaire.
Merci beaucoup, professeur Laidlaw, pour cette visite express de la vieille alliance.
Pour moi, ça a été un très grand plaisir. Merci.
Au revoir.